Bonjour à tous, nous sommes réunis pour un show devant Luchon Festival avec les visages de la guerre. Should I stay or should I go? If you say that you are mine. Bonjour Sacha.
Bonjour Vanessa.
On continue de dérouler les interviews qu'on a pu faire au Luchon Festival, parce que, bah oui, il y a des documentaires, il y a des fictions qui sortent là, maintenant. Et je vais vous parler d'un très beau documentaire, très dur, et en même temps humain, très très humain. C'est Les visages de la guerre, qui était présenté en compétition officielle du Luchon Festival et qui a obtenu un prix, le grand prix du documentaire. En apparence, un hôpital comme les autres, mais en apparence seulement. Au centre médical de Vinniki, dans la banlieue de Lviv, en Ukraine, on s'occupe exclusivement des blessés de guerre, des amputés et des défigurés. Un lieu où la reconstruction physique et psychologique rencontre la résilience collective. Suite à un récent accord passé entre les gouvernements ukrainiens et français, des chirurgiens spécialistes de la reconstruction faciale sont appelés à s'occuper sur place de celles et ceux qui ont perdu leur visage dans les combats. Cette équipe menée par le professeur Chloé Bertoulous, l'une des plus importantes spécialistes du genre en Europe, se déplace plusieurs fois par an pour réparer les chairs abîmées par les balles et les éclats d'obus de l'armée russe. Le film témoigne de leur expertise médicale, de leur engagement personnel et des liens qu'ils tissent avec le personnel local et les blessés. Rien qu'à vous lire le synopsis, je revois les images de ce documentaire et je suis frappée par la résilience de ces personnes qui ont perdu un bout d'eux, qui sont soit amputées, soit défigurées. Grâce à cette équipe française qui vient en Ukraine et grâce à ces personnes dans cet hôpital, peuvent retrouver un semblant de vie et reprendre courage. Ils n'ont jamais perdu espoir et c'est ça qui est très très beau dans ce documentaire. Il y a vraiment une force assez impressionnante, des discussions aussi légères et bien que des images peuvent choquer et où on se dit voilà, c'est la réalité de la guerre, ces personnes-là ne sont pas défaitistes, au contraire, ils vont de l'avant et même s'ils ont subi le plus effroyable pendant la guerre et que leur pays est toujours en guerre à l'heure actuelle, ils sont toujours force d'espoir et ils sont très très bien entourés. C'est un film très très humain, très dur par le sujet et tellement beau par l'espoir qui s'en dégage. Et c'est un réel plaisir d'avoir pu en discuter au Luchon Festival avec le réalisateur Didier Cross, ainsi qu'avec la réalisatrice Félicie Robin. Et vous verrez que je suis accompagnée pour cette interview, une jeune lycéenne qui avait envie d'en savoir plus, qui aimerait devenir journaliste. Et on m'a demandé s'il y avait possibilité qu'elle assiste à l'interview. Et on en avait discuté avant ensemble et elle avait plein de questionnements. Et vous verrez qu'elle pose aussi ses questions à l'équipe du documentaire. Et on sent vraiment tout ce qu'elle a ressenti et tout ce que ce documentaire a fait passer chez elle. Bonjour Félicie.
Bonjour.
Et bonjour Didier.
Bonjour.
Bienvenue au festival, au Luchon Festival. Vous venez
accompagner un documentaire très fort, percutant, je dirais, Les visages de la guerre. Je voudrais savoir quelle est la genèse du projet, comment vous avez eu l'idée de mettre ce film en place.
En fait, j'avais envie de faire quelque chose sur la guerre en Ukraine, mais c'est venu à moi de manière un peu incidente. J'avais réalisé un film il y a quelques années qui s'appelle La Disgrâce, qui parlait déjà de la question de la défiguration. C'était plutôt une série de portraits de personnes qui étaient concernées, qui exprimaient ce que ça peut dire sur un plan social, personnel, intime, la violence que ça peut sous-entendre. Et à cette occasion, j'avais rencontré donc un certain nombre de chirurgiens en maxillofacial, c'est le nom de la spécialité en fait de la reconstruction du visage, et notamment Chloé Bertolus, qui est l'une des plus grandes spécialistes européennes de la question. Et donc on est resté comme ça en contact, on a tissé un lien, si vous voulez. Et lorsque j'ai appris qu'elle partait justement en Ukraine pour pouvoir réparer les gueules cassées ukrainiennes, je lui ai demandé si je pouvais l'accompagner. Et au regard de la complicité qu'on a construite au fil du temps, elle a accepté, alors que les conditions sont évidemment pas idéales. Voilà.
Et donc, on a envoyé Didier en repérage. tout de suite, la mission partait 8 jours après.
Ah oui.
Et c'est vrai qu'on s'est organisé pour que tu puisses tout de suite y aller, puisque c'est des temps particuliers dans l'année, c'était pas en permanence. Et après cette immersion de quelques jours qui a été très forte, pour se rendre compte vraiment à la fois voilà, du contexte, de ce qu'on pouvait trouver sur place, des histoires, des gens, des actions, de ce qui se faisait, et de la possibilité de filmer, puisque tu as pris aussi quelques photos. On est allé voir France Télévisions et ils sont entrés très rapidement, je dois dire, dans l'envie de faire le film. Mmh. Et voilà, ça s'est mis en route.
L'idée du film, c'était de... Parce qu'il y a parler de la guerre, on peut en parler de maintes façons. Mais en tout cas, si on veut, d'une certaine manière, la guerre, on en parle surtout avec des chiffres. Et à partir de là, on devient assez distancié, on se sent moins concerné, tout ça devient très abstrait. Et même les images de la guerre, telles qu'on peut les avoir, qui existent beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment avec des images de drones qui ouvrent le film, même si elles sont très explicites, elles ont un caractère un peu qui est plutôt associé à l'univers du jeu vidéo, qui fait qu'on est un peu détaché de la réalité. D'autant plus que sur les réseaux sociaux, on a tendance sur Instagram ou sur X à scroller d'une image à l'autre, et à peine on regarde une image de guerre qu'on passe à une image pour une recette de cuisine, de chaton ou autre chose. Donc l'idée, c'était de prendre un peu un contre-pied et de parler des conséquences de la guerre, et donc de montrer ces conséquences physiques et psychologiques de... L'idée du traitement du film est venue de là.
Au cœur d'un hôpital,
absolument.
D'une équipe qui aide ces familles justement qui ont été victimes de la guerre.
C'est ça. Alors c'est une fondation privée en fait, celle-ci, qui est à Vinniki, c'est un petit village qui est à côté de Lviv, qui est la grande ville de l'ouest de l'Ukraine. Pas très éloignée de la frontière polonaise, on est à 2 heures de la frontière environ.
Et biélorusse.
Et biélorusse,
c'est une des villes les moins bombardées, mais visées quand même.
Enfin, pardon, mais avant ton départ, il y a quand même eu, quelques mois avant, une attaque.
Ah, wow.
Ah oui, oui,
oui
on a hésité même. On a discuté avec France Télévisions et on leur a dit, si le réalisateur et l'équipe potentiellement peuvent être dans un danger trop évident, on attendra, on ne le fera pas tout de suite.
Tout à fait.
Ça reste un pays en guerre, même si ce n'est pas une zone de front, une zone de guerre immédiate, c'est toujours un risque, bien sûr. Mais bon, voilà, on y est allé, on accompagnait donc cette équipe de 3 chirurgiens, menée donc par Chloé Bertolus, qui est donc cette grande spécialiste, et de 2 jeunes plus jeunes chirurgiens. Et c'est des équipes tournantes, en fait. Il y a une quinzaine de chirurgiens français qui sont concernés, et ils y vont tous les 2-3 mois. Il n'y a pas que des équipes françaises, il y a des équipes aussi d'autres pays européens, et notamment l'équipe américaine. Et en fait, la maxillofaciale, c'est le nom de cette spécialité, ce n'est pas de la médecine esthétique au sens littéral du terme. C'est-à-dire que c'est de la médecine
la reconstruction.
De reconstruction, absolument. Et donc, il faut redonner les fonctions vitales du visage.
Oui.
Donc, la vue, remettre un œil en place, si l'on peut dire, le rééquilibrer.
Respirer, mâcher.
Pouvoir respirer, dégager les bronches. Refabriquer une langue, une mâchoire, c'est ça la priorité. L'esthétique vient ensuite au mieux qu'on puisse, mais avec des visages ravagés par la guerre, c'est très difficile de pouvoir redonner au visage une esthétique standard, si l'on peut dire. Donc l'essentiel, et c'est ce que demandent d'ailleurs toutes les victimes, c'est de retrouver une autonomie en fait dans toutes les facultés que suppose l'essence en fait du visage.
Je trouve qu'il y a beaucoup de pudeur dans votre film, notamment quand vous filmez cette équipe avec les personnes, cette dame qui a eu la joue, qui doit être reconstruite et qui explique comment ce qu'elle a vécu dans cette école et qui a été bombardée et tout ce qu'elle a reçu. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de pudeur et beaucoup de tendresse aussi dans la façon de filmer.
Merci beaucoup d'être attentif à ça, parce qu'il fallait à la fois dans ce film être frontal, parce qu'il ne s'agit pas de tricher avec ce qu'est la guerre. Si l'idée c'est de montrer ses conséquences, il faut les montrer de manière frontale, mais avec le film puisse avoir une certaine douceur quand même malgré tout. Ça peut paraître un peu incongru, mais ça me semblait important. Et aussi dans le mode narratif, c'est-à-dire que les personnes les plus abîmées du film ne sont pas celles qu'on montre en premier. Il faut que le spectateur puisse accepter de rentrer dans cet univers.
Oui, ça va crescendo.
Absolument. L'idée, c'est de transmettre quelque chose. C'est pas que les gens fuient, en fait, c'est qu'ils acceptent cette réalité, même si elle est dure à voir. Donc, ouais, merci d'être sensible à ça, parce qu'effectivement, c'était l'un des objectifs du film.
Et puis, enfin, je le dis aussi, c'est une question de qualité humaine et de talent de réalisation aussi, de à la fois prendre en compte, comment dire, l'intimité des gens qu'on filme, qui se livrent quand même sur des choses assez énorme, incroyable, et c'est parce qu'ils sont bien regardés qu'ils l'acceptent et qu'ils savent que ça ne sera pas jeté en pâture de manière spectaculaire. Mm. Et prendre en compte aussi la manière dont on va amener le spectateur à rentrer dans le film, à les rencontrer, à accueillir leurs paroles, ça fait aussi partie de ta réflexion en permanence. Et c'est ça aussi un regard de documentariste par rapport à des choses qui peuvent être choc, mais de manière un peu agressive par rapport au spectateur. Je pense que aussi dures soient les images, on n'est pas agressé par le film. Le film accueille le regard du spectateur comme il accueille la parole et les visages des blessés.
En fait, c'est assez paradoxal. Il faut être frontal, mais il ne faut pas être voyeuriste.
Oui.
Et donc, la frontière est fragile. Hein. Donc, tout se pense, tout se pèse. Et,
c'est une réflexion globale.
Et en fait, on est obligé de se poser beaucoup de questions de réalisation pour être au plus près d'une réalité sans qu'elle nous semble insupportable ou voyeuriste. Oui.
C'est en fait la caméra s'efface et on laisse les choses se faire et donner vie à ces personnes qui sont devant vous en fait.
C'est vraiment la mission. Enfin, c'est valable pour tous les films quand on fait des documentaires, mais à plus forte raison dans des situations aussi aiguës et violentes que celle-ci. C'est qu'on est là pour traduire, pour relayer une parole, en fait. Et c'est pas rien, quand même, parce qu'on accueille une parole qui dure pendant plusieurs heures, bien souvent, alors qu'on la restitue de manière très, très simple et très courte, en fait, dans les films. Donc il faut tout peser, presque au mot près, pour arriver à restituer la réalité de quelqu'un au plus juste. Et ça, c'est tout ce temps et du tournage et du montage qui permet ça.
Voilà, parce qu'il y a un temps de réflexion énorme suite à un repérage, justement, pour bien comprendre comment tu vas faire, qui détermine déjà tout un certain nombre de choix. Le temps du tournage, où il y a aussi le fait de s'adapter aux aléas d'une équipe qui ne va pas s'arrêter de soigner des gens parce qu'on est là. Donc, il y a toute cette souplesse et cette permanente réadaptation de ce qui peut être filmé, de comment le filmer au moment du tournage. Et après, un temps vraiment très important du montage, où là, la responsabilité, elle est énorme de qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on ne montre pas, comment on le montre, qu'est-ce qu'on met en premier, quelle durée ça prend. Enfin, voilà, ça, c'est vraiment le temps de la réflexion. C'est ce temps du montage et c'est aussi le temps du documentaire par rapport à des formes qui sont plus rapides, plus... Voilà, le documentaire a besoin de temps.
Il y a aussi une certaine légèreté, et là je vais laisser parler Gala, qui m'a confié quelque chose par rapport à l'équipe médicale. Tu te souviens de ce que tu m'as raconté par rapport à cette scène où on les voyait plaisanter et autres? Tu peux leur demander pourquoi? N'aie pas peur, ils ne vont pas te manger. Ils sont tous
blagues,
gentils.
Ils font des blagues au bloc opératoire.
Voilà, c'est ça. Alors vas-y.
Ils sont tout le temps en train de rire. Ils ne sont pas infoqués dans les malheurs. Ils sont tout le temps en train de montrer les bonheurs de la vie. Comment vous avez arrivé à faire ça?
Déjà pour eux, pour les chirurgiens, c'est important de pouvoir être dans une façon de décompresser. C'est pas parce que le geste il est très maîtrisé, le geste technique de la chirurgie, qu'ils prennent pas des risques à chaque fois, parce qu'ils peuvent se tromper souvent, et que donc ils ont besoin de cette soupape par le rire, par l'humour, pour arriver à garder une certaine distance avec ce qu'ils font. Parce que si on pense tout le temps que c'est un visage qu'on répare, contrairement à un poumon ou un cœur, qui est plus abstrait quand même sur le corps, ça peut être très, très perturbant. Donc c'est la réalité de tous les chirurgiens. Les chirurgiens aiment blaguer dans les blocs opératoires, voilà. Mais il y a plus forte raison pour la chirurgie de réparation du visage. Il faut oublier qu'il y a un visage. Sinon, ça vous ramène directement à la personne pour rester dans le geste technique, pour mieux l'accomplir, en fait. Alors, ils ont été vraiment sympas parce qu'ils se sont montrés vraiment tels qu'ils sont. Ils n'ont pas triché en essayant de se montrer tout le temps hyper sérieux. Ils ont été très sincères dans la façon de montrer leur réalité au bloc. Et je leur en suis très reconnaissant parce que ça dit aussi la tension qui les anime, le fait d'avoir besoin de faire de l'humour aussi de cette manière-là. En fait, il y a beaucoup d'humour dans ce film, même si on montre des choses épouvantables. Même avec les victimes, vous avez vu, avec les Ukrainiens.
Et oui, d'ailleurs, il y a une scène que tu m'as parlé.
C'est de...
Quand ils discutaient.
Ah oui, qu'ils essayent... Bon, ils parlent tout le temps et les seules scènes qu'ils montrent, que vous montrez, qu'ils sont en train de parler, c'est quand ta chirurgie.
Oui.
Et oui, lundi, je dois attendre 3 mois. C'est de conversations très légères, très naturelles. Ce sont pas de malheur, c'est tout un de choses.
Et en fait, chez les Ukrainiens, il y a quelque chose de culturellement qui est très ancré, qui était très surprenant parce que je ne m'y attendais pas. C'est cette dimension un peu d'autodérision sur soi et cette distance qui leur donne une capacité de résilience et de résistance énorme. Comme ce moment aussi où ceux qui sont amputés se mettent
business,
à se raconter
de raconter
des blagues, et que ça nous paraît complètement fou, et en même temps ça devient un vrai outil de résistance, en fait. La résistance, elle passe aussi par là, parce que chacun sait que s'il y en a un qui tombe, tout le monde va tomber, donc tout le monde ne veut pas s'accabler de son propre sort, résiste parce que ça ne peut marcher que de manière collective. C'est quand même un petit pays, enfin c'est un grand pays géographiquement, mais c'est un petit pays en population face aux géants russes. Et donc pour avoir résisté comme ils ont résisté jusqu'ici, il faut avoir à la fois un peuple en ordre de marche, si je puis dire, mais aussi avec des capacités de résilience et d'humour aussi importantes que celles qu'on voit dans le film. Ouais.
Je dirais même que tout n'a pas été mis au montage.
Oui.
Parce que c'est...
Non, mais, voilà. Il y a des choses qui ont été dégagées.
Non, c'est pas des choses qui n'auraient
on
pas pu
cacher,
être montrées.
Ouais.
C'est une question de proportion. Oui. C'est pour dire qu'à un moment donné, dans la séquence justement où ils font presque une joute verbale de blague, c'est à qui fera la blague la plus forte, c'est vrai que c'est des questions typiques de montage. À un moment donné... C'est presque déstabilisant. Donc, il fallait trouver le juste milieu pour qu'on se rende compte qu'effectivement, ils se soutiennent mutuellement. C'est vraiment comme un mur qui tient par les briques, enfin, comme une voûte romane, quoi. Ils tiennent les uns les autres et du coup, il ne faut pas qu'il y en ait un qui craque parce que le reste s'effondre, ça c'est sûr. Mais en même temps, c'est poussé aussi jusqu'à un moment... Enfin, où on sent derrière aussi toute leur souffrance, toute leur détresse. Enfin, il faut quand même le dire pour les gens qui nous écoutent, c'est qu'ils sont quand même tous éclopés.
Oui.
Tous éclopés. Le film parle plus précisément de ceux qui ont le visage ravagé, parce que c'est ça que les Français savent faire et viennent exercer auprès d'eux et partager d'ailleurs aussi avec des médecins ukrainiens pour prendre le relais. N'empêche que dans ce centre médical, ils sont tous éclopés. Tout le monde a au moins une prothèse. Donc voilà, à un moment donné, on est dans une autre dimension.
D'ailleurs, cette dimension, elle est étonnante parce qu'on finit par s'habituer à ça. Ça paraît étonnant de dire ça, mais on finit par s'habituer quand on baigne quotidiennement dedans. Et c'est en venant en France qu'on a eu avec l'équipe le même étonnement. Bon, évidemment, ça dure quelques minutes, mais de se demander qu'est-ce qui ne va pas, parce qu'on ne voit que des gens avec... un visage correct de bras et de jambes. Ça agit à l'inverse, c'est-à-dire que la normalité devient la normalité quand on revient dans un schéma standard comme celui qu'on vient ici.
On se rend compte qu'on était autre part.
Oui, c'est qu'on finit par s'habituer aux choses, comme eux s'habituent à leur propre sort, si je puis dire. Pendant tout ce temps de tournage, je n'ai pas vu une seule personne accablée dans un coin. Ça ne veut pas dire qu'il y a une souffrance très profonde, ça ne veut pas dire que tout ça est d'une violence inouïe, bien sûr. Mais il y a quand même une protection chez chacun d'entre eux qui fait qu'il ne faut pas basculer au nom de l'unité nationale et de la résistance collective.
Ce qui est beau aussi, c'est cette transmission justement de ces médecins français qui vont là-bas et qui apportent quelque chose aux Ukrainiens et qui leur montrent des techniques.
Merci d'avoir relevé ça, parce que c'est aussi l'autre mission effectivement des chirurgiens, c'est de transmettre une compétence. La maxillofaciale, elle n'est pas partagée par beaucoup de pays au monde, une quinzaine de pays je crois. Et donc, il y avait la nécessité évidemment de pouvoir la transmettre aux Ukrainiens, parce que c'est énormément d'opérations. Souvent 10, 20, 30, 40 opérations pour une seule personne, donc très étalées dans le temps, sur plusieurs années, ou parfois même plusieurs décennies. Et donc l'idée, c'est évidemment de transmettre une compétence. Voilà, c'est aussi la mission de ces chirurgiens d'essayer de transmettre sa compétence pour que les chirurgiens ukrainiens soient autonomes pour pouvoir ensuite soigner les leurs.
La France est particulièrement en pointe là-dedans. D'abord parce qu'on a une compétence héritée des gueules cassées, hein, mine de rien.
Tout à fait,
savoir-faire dans cette technique-là, héritée aussi malheureusement des attentats de Paris de 2015. Et Chloé Berthelus fait partie des gens qui ont opéré les blessés du Bataclan. Donc il y a voilà, cette particularité française qui fait qu'on est assez en pointe là-dedans. Et c'est un partenariat entre la PHP et le ministère de la Santé ukrainien qui a lieu dans des centres privés, mais aussi dans des hôpitaux publics. Enfin voilà, c'est pas réservé à cet hôpital. C'est quelque chose d'assez global sur les centres de soins en Ukraine.
Merci beaucoup pour le partage.
Bah, merci à vous.
Merci.
C'est une interview qui est on ressort différent cette équipe qui va en Ukraine, ce réalisateur qui les suit des bombardements pendant qu'il est là-bas, qui va se mettre à l'abri plusieurs fois par jour. Et d'ailleurs, vous le verrez dans le documentaire, il y a des scènes qui sont dans ce bunker, dans cet abri, où ils sont un peu plus en sécurité que s'ils étaient restés dans l'hôpital. Et c'est là où on se dit, waouh, c'est assez impressionnant, parce que c'est en dehors, normalement, de la zone de combat, mais il y a toujours des risques. Et comme c'est un pays en guerre et qu'on ne leur donne pas le temps de souffler, c'est assez prenant. Donc, vous le verrez dans le documentaire et vous l'entendez. Vous l'avez entendu dans cette interview. Et c'est vrai que de discuter avec ce réalisateur, on a eu la chance de discuter aussi en off et d'en apprendre un peu plus. Et de se dire que ces personnes sont vraiment des héros, de se rendre là-bas, de redonner le sourire à ces gens et qui plaisantent sur des choses, qui essayent d'avoir cette légèreté et cet espoir qu'on veut leur retirer, et en fait qui gardent. Ils gardent cette joie aussi de pouvoir discuter de tout et de rien. De plaisanter même avec, de se dire, mon opération, c'est dans tant, moi c'est là, tu vas passer avant moi. Enfin, je trouve que ils sont vraiment un exemple de résilience et force d'espoir. Donc je vous invite vraiment à être au rendez-vous le 18 février, et oui, c'est là, bah oui, aujourd'hui, hein, le 18 février sur France 2 à 22h35 exactement. Donc vous pourrez découvrir le documentaire Les visages de la guerre et bien sûr sur la plateforme France TV, où vous pourrez le revoir et vous pourrez aussi le partager, en discuter avec des personnes et vous rendre compte de ce qui peut arriver là-bas et que la guerre n'est vraiment pas loin et que ces gens font tout pour montrer qu'il y a de l'espoir et qu'il y a une vie aussi après avoir subi une amputation, après avoir subi une défiguration, après avoir subi plein de choses qui peut arriver, que ce soit par balle, que ce soit avec des obus, que ce soit avec plein de choses d'explosions ou autre. Et je trouve que c'est vraiment très fort. Je suis assez émue parce que quand je repense, quand je rentends cette interview, quand je revois plein de choses et je me dis que on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Tant qu'on ne voit pas ces images, tant qu'on ne se les prend pas dans la tête, on ne voit pas la guerre en elle-même, mais on voit les dégâts que ça peut provoquer, mais on voit aussi ce courage et cette force, cet espoir qu'ont ces gens, ces Ukrainiens, qui sont vraiment à saluer. Et voilà, et c'est là où on se dit que on voit ce qui se passe, on voit la cruauté humaine avec ces bombardements, avec tout ce qu'il y a. Et on est vraiment à cœur avec eux, avec cette équipe qui va en Ukraine, qui va redonner le sourire, redonner un semblant de vie à ces personnes. Et le jury documentaire du Luchon Festival ne s'y est pas trompé puisqu'ils ont reçu le Grand Prix documentaire. Les Visages de la Guerre a reçu le Grand Prix documentaire du Luchon Festival. C'était Chaud Devant, Luchon Festival, avec Les Visages de la Guerre. Merci beaucoup au réalisateur Didier Cross. Merci à la productrice Félicie Robin. Et merci à toute l'équipe du Luchon Festival. Et soyez au rendez-vous ce mercredi 18 février à 22h35 sur France 2. Et sinon, sur la plateforme France TV pour découvrir Les Visages de la Guerre. It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know.